France Culture.
C'est donc l'heure du journal de la rédaction qui vous est présenté par Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Après 40 années de prison, l'un des plus vieux détenus français va retrouver la liberté la semaine prochaine. Georges Ibrahim Abdallah va pouvoir rentrer chez lui, au Liban, sur décision de la Cour d'appel de Paris. Très largement décriée, la suppression de 2 jours de congé voulue par l'exécutif pour faire en sorte que tous les Français travaillent plus ulcère les syndicats et notamment la CFDT. Dans ce journal, la réaction de sa secrétaire générale Marie-Lise Léon. Une taxe pour financer la protection sociale des risques climatiques en matière de logement. Ce projet porté par 2 jeunes économistes séduit le Haut Commissariat au plan. Enfin, en cédant aux Druzes la gestion du pouvoir dans la région de Soudeya, le président syrien parie sur un retour au calme au détriment de sa propre légitimité. Pro-palestinien, le militant communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah vient donc enfin d'obtenir gain de cause. Âgé de 74 ans et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, il va pouvoir sortir de prison le 25 juillet prochain. La Cour d'appel de Paris a donné son accord pour libérer cet homme qui aura passé 40 années de sa vie derrière les barreaux. Jugé pour complicité dans l'assassinat de 2 diplomates, un Américain et un Israélien, Georges Ibrahim Abdallah, qui a toujours nié les faits, a multiplié en vain les demandes de remise en liberté, d'où ce matin Julien Grohard, l'émotion manifeste de son avocat à la sortie de la salle d'audience.
Les yeux embués, maître Jean-Louis Chalancé marque une pause et sourit à la presse. La justice vient d'ordonner la libération de son client, Georges Ibrahim Abdallah, prévu le 25 juillet prochain. Car même si le parquet général peut se pourvoir en cassation, le recours ne serait pas suspensif et n'empêcherait pas la sortie du Libanais.
Oui, c'est une victoire. Enfin, c'est une victoire. Après près de 41 ans, le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Donc c'est une victoire relative, si vous voulez. Depuis le départ, ce procès est monté avec un avocat qui travaille pour la police, avec des preuves fournies par la CIA et le FBI. C'est toujours un militant communiste et il n'a jamais renoncé à ses convictions de soutien au peuple palestinien et de soutien à la résistance libanaise.
Seule condition imposée par la justice, que Georges Ibrahim Abdallah quitte la France dès sa sortie de prison. Il sera donc transféré jusqu'à Roissy, puis mis dans un avion à destination du Liban, qui s'est dit prêt à l'accueillir. Un soulagement pour son avocat, mais également une crainte de voir la sécurité du militant pro-palestinien mise en doute par Israël.
Ce qui a changé, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, on peut considérer qu'un homme peut retourner dans son pays où il sera accueilli parfaitement. Après, mon seul doute, si vous voulez, c'est qu'il ne se fasse pas assassiner par un drone israélien. Les Israéliens ont tué comme ça quelqu'un qu'ils avaient libéré en échange il y a 3 ans, un Libanais qu'ils avaient échangé. Et 3 ans après, vous avez un missile qui est arrivé directement sur lui en Syrie. Donc ils peuvent faire, comme ils font tout maintenant, qu'ils attaquent Damas, personne ne réagit, si vous voulez. Ils peuvent évidemment le tuer, le faire tuer sur le territoire libanais.
Le collectif de soutien de Georges Ibrahim Abdallah salue une victoire collective et espère que cette décision de justice ne sera pas à nouveau entravée.
Un reportage signé Julien Grohard. L'effort demandé aux Français est réalisable. Le président de la Cour des comptes approuve ce matin le choix de François Bayrou de faire du désendettement une priorité. Pierre Moscovici ne veut d'ailleurs pas parler d'austérité. Le Haut Conseil des Finances Publiques, qu'il dirige également, en dira plus à l'automne au moment de la présentation du budget proprement dit. La patronne de la CFDT, en revanche, considère que le chemin tracé par le locataire de Matignon est parsemé de mesures profondément injustes. Marie-Lise Léon était ce matin l'invitée de nos confrères de France Inter. Elle a particulièrement pointé du doigt l'idée de supprimer 2 jours fériés.
Quand le Premier ministre nous dit qu'il faut réenchanter le travail, vous pensez vraiment que vous allez réenchanter le travail en expliquant à les travailleurs et les travailleuses essentiels qu'on a applaudi, on a dit qu'ils étaient formidables pendant le Covid, qu'ils nous avaient sauvés, ils attendent toujours la reconnaissance. Pour ces personnes, travailler 2 jours de plus gratos, c'est 2 jours
avec
de moins
annuel
de repos. Oui, bah ça revient au voilà. Même, ou alors on dit que c'est une baisse de salaire. Ces personnes-là, moi, quand je les rencontre, qui sont agents de sécurité, hôtesses de caisse, auxiliaires de vie, ce qu'ils me disent, mais Marie-Lise, moi, les jours fériés, c'est pas des temps de repos, c'est des temps de répit. J'ai des conditions de travail difficiles, je ne suis pas en capacité de travailler plus, et je refuse de travailler ces 2 jours fériés. C'est ça la réalité
du
travail.
Les études qui montrent que les Français travaillent moins que leurs voisins européens, ouais. Vous dites le mode de calcul est erroné.
Le mode de calcul est erroné, parce que quand la ministre des Comptes Publics affirme qu'on travaille moins, c'est qu'elle prend l'ensemble de la population, y compris les enfants, les retraités. Comme on a une dynamique de natalité qui est plus importante, ça fausse les comparaisons. Globalement, en termes de population active, nous travaillons plus que les Allemands. Voilà, ça c'est un fait. Donc j'attends aussi des responsables politiques qui racontent pas n'importe quoi.
La CFDT qui n'exclut pas de rejoindre la mobilisation à laquelle appelle la CGT au mois de septembre. Marie-Lise Léon n'adhère pas en revanche à l'idée d'une grève générale. Au chapitre des réactions politiques, on retiendra aujourd'hui celle de François Hollande. Dans un entretien publié par le journal Le Monde, l'ancien président socialiste devenu député demande au gouvernement une révision profonde, dit-il, de son projet de budget s'il veut éviter une censure du PS cet automne. À l'heure des coupes budgétaires de toutes sortes pour faire donc près de 44 milliards d'euros d'économies l'année prochaine, voilà un rapport un peu à contre-courant. Il est signé par deux jeunes économistes, Lucas Chancel et Thomas Bézi. Ils préconisent d'instaurer une taxe pour financer ce qu'ils appellent la protection sociale des risques climatiques. L'idée séduit manifestement le Haut Commissariat au Plan. Il s'agit de venir en aide aux Français dont les immeubles et les maisons sont endommagés par la sécheresse, notamment avec une sorte d'assurance préférentielle pour les foyers les plus modestes. Éléonore Claude.
Chaque année, 50% des demandes d'indemnisation pour dégâts liés à la sécheresse sont rejetées. Et quand les sinistrés obtiennent gain de cause, les bâtisses sont reconstruites à l'identique, sans consolidation, jusqu'à la prochaine catastrophe. À cause du réchauffement climatique, il faut s'attendre à 10 fois plus de vagues de chaleur et à des pluies de plus en plus intensives d'ici 2100. Et pour le moment, 80% des logements exposés à la sécheresse appartiennent aux classes moyennes, explique le co-auteur de la note, Thomas Bézi.
Pour la sécheresse, c'est principalement parce qu'en fait, c'est souvent des logements individuels en fait qui sont touchés. C'est souvent soit des zones pavillonnaires, soit des zones rurales qui sont touchées par la sécheresse.
Mais notre système d'indemnisation des catastrophes naturelles actuelles, le régime CatNat, ne couvre pas totalement ces types de sinistres. Le remboursement est le même pour tous, quels que soient les revenus. L'effort à faire pour les ménages modestes est donc 3 fois plus grand que pour les ménages aisés. Des disparités que le rapport entend contrer en plaidant pour la création d'une protection sociale des risques climatiques.
On peut se dire que c'est des dépenses en plus et qu'il ne faut pas les prendre en charge parce que ça coûte trop cher. Mais ça veut dire que du coup, on accepte le fait qu'il y a des populations qui sont touchées par des événements liés au réchauffement climatique et qu'on décide de ne pas les indemniser. Si on ne fait pas cet investissement-là, qui est aussi de l'investissement en termes de prévention, demain, ça nous coûtera encore plus cher et ça sera encore plus de personnes qui ne seront pas indemnisées.
Parmi les mesures suggérées, une taxe sur le patrimoine immobilier des plus riches, qui sont les principaux émetteurs de CO2. Elle rapporterait 5 milliards d'euros par an, soit le double de ce qui est engagé actuellement. Bien qu'à contre-courant des récentes annonces budgétaires, cette proposition intéresse d'ores et déjà le Haut Commissariat à la stratégie et au plan.
Après plus de 65 ans de présence et à la demande du nouveau pouvoir politique sénégalais qui revendique sa souveraineté pleine et entière, la France rétrocède aujourd'hui la dernière de ses bases militaires dans le pays avec pour l'occasion une cérémonie officielle ce matin présidée par le chef d'état-major des armées du Sénégal. Ces 3 dernières années, les militaires français ont donc quitté le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Côte d'Ivoire. La France est encore présente, Valérie Crova, au Gabon et surtout à Djibouti, sur la Corne de l'Afrique.
Après le retrait de ses forces au Sahel, la France entend faire de Djibouti un point de projection pour ses missions en Afrique, comme l'a indiqué Emmanuel Macron lors d'une visite en décembre dernier. En Afrique, mais aussi dans toute la sous-région. Depuis sa base, qui abrite 4 Mirage 2000, un avion de transport tactique, C-160 et 2 hélicoptères Puma, la France peut projeter rapidement des forces vers l'océan Indien et le Moyen-Orient. Depuis la base aérienne de Djibouti, les chasseurs français sont à quelques minutes du Yémen, de la Somalie et à portée des bases utilisées en Jordanie et aux Émirats arabes unis. La base navale de Djibouti permet également aux forces françaises d'intervenir dans le golfe d'Aden et en mer Rouge. Sa proximité avec le détroit de Bab el-Mandeb, situé en face du Yémen, lui confère une position stratégique. Ce corridor de la mer Rouge transporte environ un quart du commerce maritime mondial. Les forces françaises stationnées à Djibouti ont par ailleurs joué un rôle important dans les opérations de lutte contre la piraterie en mer d'Oman. La France et Djibouti sont liés par un traité de coopération en matière de défense, accord qui a été renouvelé en 2024.
Dans la bande de Gaza, une frappe aérienne israélienne a touché ce matin l'église catholique de la Sainte Famille. On dénombre plusieurs blessés. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, a rapidement dénoncé cette attaque. Le président syrien reconnaît, lui, à la télévision que la médiation américaine, arabe et turque a sauvé la région et permis de résoudre la crise dans le sud du pays. Sur place, on dénombre tout de même plus de 350 morts. Ahmad al-Shara a finalement décidé de rappeler les troupes gouvernementales déployées à Souheida. Il laisse la le pouvoir local aux mains des Druzes. Au-delà du fiasco militaire, Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante dans la région. Au-delà de ce fiasco, on touche là aux limites du nouveau pouvoir syrien, incapable pour l'instant d'asseoir son pouvoir sur la totalité du territoire.
Et oui, Ahmed al-Shara a beau faire bonne figure lors de son allocution au cœur de la nuit, c'est bien un président syrien affaibli qui sort de cette désastreuse campagne militaire en pays druze. Il ne désarme pas les factions druzes, il n'impose pas l'autorité de Damas sur la région, qui va conserver la main sur sa propre sécurité. Le retrait de son armée du Sud, conformément aux exigences de l'État hébreu, le laisse profondément affaibli face à Israël, mais aussi sur la scène nationale. Son gouvernement sunnite a gagné pour longtemps sans doute l'hostilité de la minorité druze. Les exactions commises par ses soldats contre les civils, les humiliations infligées à des dignitaires druzes qui ont vu leurs moustaches, symbole d'autorité, rasées, vont en outre renforcer les craintes des autres minorités, chrétiens et alaouites. Au mieux, il ne contrôle pas son armée, au pire, il consent à ses dérives. Mais le président syrien risque aussi de se retrouver affaibli face aux factions sunnites les plus radicales. Elles qui contestaient son pouvoir vont trouver dans son échec motif à hausser le ton. C'est enfin toute sa stratégie d'unification du pays qui se voit remise en cause. Après avoir pacifié et intégré le pays druze, le président syrien comptait faire de même avec les Kurdes. Or, ces derniers, qui jouissent d'une large autonomie, disposent de forces armées autrement plus aguerries. Ajoutons toutefois que les druzes pourraient eux aussi pâtir de cette issue. La région est pauvre, en grandes difficultés économiques, elle ne peut se permettre d'être isolée. Si elle coupe les ponts avec Damas, son avenir risque de n'être que dans les trafics déjà importants. Or, certains appellent déjà au boycott du commerce avec les Druzes.
Merci beaucoup, Marie-Pierre Véraud. Donald Trump se dit optimiste. Le président américain croit qu'un accord commercial est possible avec les Européens. Le commissaire au commerce de l'UE doit d'ailleurs participer aujourd'hui à Washington à des discussions importantes sur les droits de douane. Le locataire de la Maison-Blanche se dit également proche d'un accord avec l'Inde. En revanche, il avoue que la situation est beaucoup plus délicate avec le Canada. Trump qui s'attaque aux États-Unis au programme d'aide alimentaire réservé aux plus défavorisés. 40 millions de personnes y ont droit jusqu'à présent. Adoptée il y a maintenant 2 semaines, la grande loi budgétaire prévoit en effet de réduire les ressources dévolues à ce programme de plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est évidemment un coup dur pour les plus précaires, qu'ils soient américains ou d'origine étrangère. À Washington, c'est un reportage d'Agera Mohamed.
Oscar vient 2 fois par mois à cette distribution alimentaire. Cette fois-ci, il repart avec 2 sacs remplis dans les mains.
Là, j'ai eu des pommes, bananes, des bananes, des haricots, beans, du riz, des pommes de
rice,
terre.
Potato.
Oui, tout est gratuit.
Originaire du Guatemala, sans papier, il enchaîne les petits boulots, mais pas suffisamment pour nourrir toute sa famille.
Tout est tellement très cher, on n'a plus assez d'argent, il n'y a pas beaucoup de travail, les loyers sont trop élevés.
Et les prix de la nourriture augmentent aussi.
Le pain de mie, vous l'aviez à 4 dollars il y a 2 ans. Maintenant, c'est 6 dollars pour la même marque.
Elle, c'est Mary, 70 ans, petite retraite et des bons alimentaires de l'État pour payer ses courses dans les magasins.
Au moment de la pandémie, j'avais le droit à 240 dollars par mois de bons. Aujourd'hui, c'est 30 euros. C'est comme si on vous donnait 1 dollar par jour. On ne peut pas avoir grand-chose au supermarché avec ça.
Alice, travailleuse sociale, est révoltée par la politique de Donald Trump.
Je ne sais pas ce qu'il fabrique, mais il doit remettre les pieds sur terre et il doit venir voir de ses propres yeux ce qu'il se passe et parler aux gens.
Avec cette nouvelle loi, 3 millions d'Américains seront exclus du programme national d'aide alimentaire.
Sachez que le Sénat américain vient par ailleurs d'approuver 9 milliards de dollars de coupes budgétaires. Elles concernent cette fois-ci l'aide internationale. Jugée trop critique à l'égard des républicains, 2 médias, une télévision et une radio publique sont aussi touchés par ces réductions financières. En Ukraine, l'actualité est avant tout politique. Aujourd'hui, les parlementaires viennent en effet d'approuver un important remaniement gouvernemental. Le président Volodymyr Zelensky veut un nouvel élan. Il compte sur l'actuel ministre de l'économie, une femme qu'il vient de nommer à la tête de l'équipe chargée de piloter les affaires du pays. Les jeunes Britanniques vont pouvoir voter dès l'âge de 16 ans. C'est une décision du gouvernement travailliste qui dit tenir une promesse de campagne. Décision annoncée il y a quelques minutes. Enfin, 40 000 euros de moins pour le festival Rock en Seine. La ville de Saint-Cloud retire sa subvention. Elle n'accepte pas la présence d'un groupe de rap irlandais qui a pris fait et cause pour les Palestiniens. Les musiciens de Niqab, c'est son nom, sont également accusés de soutenir le Hezbollah. L'un d'entre eux est d'ailleurs inculpé d'infractions terroristes en Grande-Bretagne. Un ciel variable sur le nord de la France avec des éclaircies de plus en plus lumineuses. Au sud de la Loire, le soleil s'impose partout. Deux départements sont toujours en vigilance rouge, aux feux de forêt, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Et puis pour tout le monde, les températures sont en hausse. Elles iront cet après-midi de 24 à 36 degrés. C'est la fin de ce journal réalisé avec Nicolas Pomé.